je trouvai Albertine dans son lit. Dégageant son cou, sa chemise blanche changeait les proportions de son visage qui, congestionné par le lit ou le rhume ou le dîner, semblait plus rose. Je pensai aux couleurs que j'avais eues quelques heures auparavant à côté de moi, sur la digue, et desquelles j'allais enfin savoir le goût. Sa joue était traversée de haut en bas par une de ces longues tresses noires et bouclées que, pour me plaire, elle avait défaites entièrement. Elle me regardait en souriant. À côté d'elle, dans la fenêtre, la vallée était éclairée par le clair de lune. La vue du cou nu d'Albertine, de ses joues trop roses, m'avait jeté dans une telle ivresse, c'est-à-dire avait tellement mis pour moi la réalité du monde non plus dans la nature, mais dans le torrent des sensations que j'avais peine à contenir, que cette vue avait rompu l'équilibre entre la vie immense, indestructible qui roulait dans mon être, et la vie de l'univers, si chétive en comparaison. La mer, que j'apercevais à côté de la vallée dans la fenêtre, les seins bombés des premières falaises de Menneville, le ciel où la lune n'était pas encore montée au zénith, tout cela semblait plus léger à porter que des plumes pour les globes de mes prunelles, qu'entre mes paupières je sentais dilaté, résistant, prêt à soulever bien d'autres fardeaux, toutes les montagnes du monde sur leur surface délicate. Leur orbe ne se trouvait plus suffisamment rempli par la sphère même de l'horizon. Et tout ce que la nature eût pu m'apporter de vie m'eût semblé bien mince. Les souffles de la mer m'eussent paru bien courts pour l'immense aspiration qui soulevait ma poitrine. Je me penchai vers Albertine pour l'embrasser. La mort eût dû me frapper en ce moment que cela m'eût paru indifférent ou plutôt impossible, car la vie n'était pas hors de moi, elle était en moi. J'aurais souri de pitié si un philosophe eût émis l'idée qu'un jour, même éloigné, j'aurais à mourir, que les forces éternelles de la nature me survivraient, les forces de cette nature sous les pieds divins de qui je n'étais qu'un grain de poussière. Qu'après moi il y aurait encore ces falaises arrondies et bombées, cette mer, ce clair de lune, ce ciel. Comment cela eût-il été possible? Comment le monde eût-il pu durer plus que moi, puisque je n'étais pas perdu en lui, puisque c'était lui qui était enclos en moi qu'il était bien loin de remplir, en moi où, sentant la place d'y entasser tant d'autres trésors, je jetais dédaigneusement dans un coin ciel, mer et falaise. Finissez où je sonne ! S'écria Albertine, voyant que je me jetais sur elle pour l'embrasser. Mais je me disais que ce n'était pas pour ne rien faire qu'une jeune fille fait venir un jeune homme en cachette, en s'arrangeant pour que sa tante ne le sache pas, que d'ailleurs l'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. Dans l'état d'exaltation où j'étais, le visage rond d'Albertine, éclairé d'un feu intérieur comme par une veilleuse, prenait pour moi un tel relief qu'imitant la rotation d'une sphère ardente, il me semblait tourner, telles ces figures de Michel-Ange qu'emportent un immobile et vertigineux tourbillon. J'allais savoir l'odeur, le goût qu'avait ce fruit rose inconnu. J'entendis un son précipité, prolongé et criard. Albertine avait sonné de toutes ses forces. J'avais cru que l'amour que j'avais pour Albertine n'était pas fondé sur l'espoir de la possession physique. Pourtant, quand il m'eût paru résulter de l'expérience de ce soir-là que cette possession était impossible, et qu'après n'avoir pas douté le premier jour sur la plage qu'Albertine ne fût dévergondée, puis être passée par des suppositions intermédiaires, il me sembla acquis d'une manière définitive qu'elle était absolument vertueuse. Quand, à son retour de chez sa tante 8 jours plus tard, elle me dit avec froideur « Je vous pardonne. Je regrette même de vous avoir fait de la peine, mais ne recommencez jamais. » Au contraire de ce qui s'était produit quand Bloch m'avait dit qu'on pouvait avoir toutes les femmes, et comme si, au lieu d'une jeune fille réelle, j'avais connu une poupée de cire, il arriva que peu à peu se détacha d'elle mon désir de pénétrer dans sa vie, de la suivre dans les pays où elle avait passé son enfance, d'être initiée par elle à une vie de sport. Ma curiosité intellectuelle de ce qu'elle pensait sur tel ou tel sujet ne survécut pas à la croyance que je pourrais l'embrasser. Mes rêves l'abandonnèrent dès qu'ils cessèrent d'être alimentés par l'espoir d'une possession dont je les avais crus indépendants. Dès lors, ils se retrouvèrent libres de se reporter, selon le charme que je lui avais trouvé un certain jour, surtout selon la possibilité et les chances que j'entrevoyais d'être aimée par elle, sur tel ou tel des amis d'Albertine, et d'abord sur André. Pourtant, si Albertine n'avait pas existé, peut-être n'aurais-je pas eu le plaisir que je commençais à prendre de plus en plus, les jours qui suivirent, à la gentillesse que me témoignait André. Albertine ne raconta à personne l'échec que j'avais essuyé auprès d'elle. Elle était une de ces jolies filles qui, dès leur extrême jeunesse, pour leur beauté, mais surtout pour un agrément, un charme qui reste assez mystérieux, et qui ont leur source peut-être dans des réserves de vitalité ou de moins favorisées par la nature viennent se désaltérer, toujours, dans leur famille, au milieu de leurs amis, dans le monde, ont plus davantage que de plus belles, de plus riches. Elle était de ces êtres à qui, avant l'âge de l'amour et bien plus encore quand il est venu, on demande plus que ne demande, et même qu'ils ne peuvent donner. Dès son enfance, Albertine avait eu en admiration devant elle 4 ou 5 petites camarades, parmi lesquelles se trouvait André, qui lui était si supérieur et le savait. Et peut-être cette attraction qu'Albertine exerçait bien involontairement avait-elle été à l'origine, avait-elle servi à la fondation de la petite bande. Cette attraction s'exerçait même assez loin, dans des milieux relativement plus brillants où, s'il y avait une pavane à danser, on demandait Albertine plutôt qu'une jeune fille mieux née. La conséquence était que, n'ayant pas un sou de dot, vivant assez mal d'ailleurs, à la charge de M. Bontemps qu'on disait véreux et qui souhaitait se débarrasser d'elle, elle était pourtant invitée non seulement à dîner, mais à demeure chez des personnes qui, aux yeux de Saint-Loup, n'eussent eu aucune élégance, mais qui, pour la mère de Rosemonde, où la mère d'André, femme très riche mais qui ne connaissait pas ces personnes, représentait quelque chose d'énorme. Ainsi Albertine passait tous les ans quelques semaines dans la famille d'un régent de la Banque de France, président du conseil d'administration d'une grande compagnie de chemin de fer. La femme de ce financier recevait des personnages importants et n'avait jamais dit son jour à la mère d'André, laquelle trouvait cette dame impolie, mais n'en était pas moins prodigieusement intéressée par tout ce qui se passait chez elle. Aussi exhortait-elle tous les ans André à inviter Albertine dans leur villa, parce que, disait-elle, c'était une bonne œuvre d'offrir un séjour à la mer à une fille qui n'avait pas elle-même les moyens de voyager et dont la tante ne s'occupait guère. La mère d'André n'était probablement pas mue par l'espoir que le régent de la banque et sa femme, apprenant qu'Albertine était choyée par elle et sa fille, concevraient d'elles deux une bonne opinion. À plus forte raison n'espérait-elle pas qu'Albertine, pourtant si bonne et adroite, saurait la faire inviter, ou tout au moins faire inviter André au garden party du financier. Mais chaque soir à dîner, tout en prenant un air dédaigneux et indifférent, elle était enchantée d'entendre Albertine lui raconter ce qui s'était passé au château pendant qu'elle y était, les gens qui avaient été reçus et qu'elle connaissait presque tous de vue ou de nom. Même la pensée qu'elle ne les connaissait que de cette façon, c'est-à-dire ne les connaissait pas, elle appelait cela connaître les gens de tout temps, donnait à la mère d'André une pointe de mélancolie tandis qu'elle posait à Albertine des questions sur eux d'un air hautain et distrait, du bout des lèvres, et eût pu la laisser incertaine et inquiète sur l'importance de sa propre situation si elle ne s'était rassurée elle-même et replacée dans la réalité de la vie en disant au maître d'hôtel « Vous direz au chef que ces petits pois ne sont pas assez fondants. » Elle retrouvait alors sa sérénité, et elle était bien décidée à ce qu'André n'épousât qu'un homme d'excellente famille naturellement, mais assez riche pour qu'elle pût avoir elle aussi un chef et 2 cochers. C'était cela, le positif, la vérité effective d'une situation. Mais qu'Albertine eût dîné au château du régent de la banque avec telle ou telle dame, que cette dame l'eût même invitée pour l'hiver suivant, cela n'en donnait pas moins à la jeune fille, pour la mère d'André, une sorte de considération particulière qui s'alliait très bien à la pitié et même au mépris excité par son infortune. Mépris augmenté par le fait que M. Bontemps eût trahi son drapeau et se fût, même vaguement panamiste, disait-on, rallié au gouvernement. Ce qui n'empêchait pas, d'ailleurs, la mère d'André, par amour de la vérité, de foudroyer de son dédain les gens qui avaient l'air de croire qu'Albertine était d'une basse extraction. « Comment ? C'est tout ce qu'il y a de mieux ? Ce sont des simonées avec un seul N ?» Certes, à cause du milieu où tout cela évoluait, où l'argent joue un tel rôle, et où l'élégance vous fait inviter mais non épouser, aucun mariage potable ne semblait pouvoir être pour Albertine la conséquence utile de la considération si distinguée dont elle jouissait et qu'on n'eût pas trouvé compensatrice de sa pauvreté. Mais même à eux seuls et n'apportant pas l'espoir d'une conséquence matrimoniale, ces succès excitaient l'envie de certaines mères méchantes, furieuses de voir Albertine être reçue comme l'enfant de la maison par la femme du régent de la banque, même par la mère d'André qu'elle connaissait à peine. Aussi disait-elle à des amis communs d'elle et de ces deux dames que celle-ci serait indignée si elle savait la vérité, c'est-à-dire qu'Albertine racontait chez l'une et vice-versa tout ce que l'intimité où on l'admettait imprudemment lui permettait de découvrir chez l'autre. Mille petits secrets qu'il eût été infiniment désagréable à l'intéressé de voir dévoilés. Ces femmes envieuses disaient cela pour que cela fût répété et pour brouiller Albertine avec ses protectrices. Mais ces commissions, comme il arrive souvent, n'avaient aucun succès. On sentait trop la méchanceté qui les dictait et cela ne faisait que faire mépriser un peu plus celle qui en avait pris l'initiative. La mère d'André était trop fixée sur le compte d'Albertine pour changer d'opinion à son égard. Elle la considérait comme une malheureuse, mais d'une nature excellente et qui ne savait qu'inventer pour faire plaisir. Si cette sorte de vogue qu'avait obtenue Albertine ne paraissait devoir comporter aucun résultat pratique, elle avait imprimé à l'ami d'André le caractère distinctif des êtres qui, toujours recherchés, n'ont jamais besoin de souffrir, caractère qui se retrouve aussi pour des raisons analogues à une autre extrémité de la société chez les femmes d'une grande élégance, et qui est de ne pas faire montre des succès qu'ils ont, de les cacher plutôt. Elle ne disait jamais de quelqu'un « il a envie de me voir ». Elle parlait de tous avec une grande bienveillance, et comme si ce fût elle qui eût couru après rechercher les autres. Si on parlait d'un jeune homme qui, quelques minutes auparavant, venait de lui faire en tête à tête les plus sanglants reproches parce qu'elle lui avait refusé un rendez-vous, bien loin de s'en vanter publiquement ou de lui en vouloir à lui, elle faisait son éloge. C'est un si gentil garçon. Elle était même ennuyée de tellement plaire parce que cela l'obligeait à faire de la peine, tandis que par nature, elle aimait à faire plaisir. Elle aimait même à faire plaisir au point d'en être arrivé à pratiquer un mensonge spécial à certaines personnes utilitaires, à certains hommes arrivés. Existant d'ailleurs à l'état embryonnaire chez un nombre énorme de personnes, ce genre d'insincérité consiste à ne pas savoir se contenter, pour un seul acte, de faire, grâce à lui, plaisir à une seule personne. Par exemple, si la tante d'Albertine désirait que sa nièce l'accompagnât à une matinée peu amusante, Albertine, en s'y rendant, aurait pu trouver suffisant d'en tirer le profit moral d'avoir fait plaisir à sa tante. Mais, accueillie gentiment par les maîtres de la maison, elle aimait mieux leur dire qu'elle désirait depuis si longtemps les voir qu'elle avait choisi cette occasion et sollicité la permission de sa tante. Cela ne suffisait pas encore. À cette matinée se trouvait une des amies d'Albertine qui avait un gros chagrin. Albertine lui disait « Je n'ai pas voulu te laisser seule. J'ai pensé que ça te ferait du bien de m'avoir près de toi. Si tu veux que nous laissions la matinée, que nous allions ailleurs, je ferai ce que tu voudras. » je désire avant tout te voir moins triste. » Ce qui était vrai aussi, du reste. Parfois, il arrivait pourtant que le but fictif détruisait le but réel. Ainsi, Albertine, ayant un service à demander pour une de ses amies, allait pour cela voir une certaine dame. Mais, arrivée chez cette dame bonne et sympathique, la jeune fille, obéissant à son insu au principe de l'utilisation multiple d'une seule action, trouvait plus affectueux d'avoir l'air d'être venue seulement à cause du plaisir qu'elle avait senti qu'elle éprouverait à revoir cette dame. Celle-ci était infiniment touchée qu'Albertine eût accompli un long trajet par pure amitié. En voyant la dame presque émue, Albertine l'aimait encore davantage. Seulement il arrivait ceci. Elle éprouvait si vivement le plaisir d'amitié pour lequel elle avait prétendu mensongèrement être venue, qu'elle craignait de faire douter la dame de sentiments en réalité sincères si elle lui demandait le service pour l'ami. La dame croirait qu'Albertine était venue pour cela, ce qui était vrai, mais elle conclurait qu'Albertine n'avait pas de plaisir désintéressé à la voir, ce qui était faux. De sorte qu'Albertine repartait sans avoir demandé le service, comme les hommes qui ont été si bons avec une femme dans l'espoir d'obtenir ses faveurs, qu'ils ne font pas leur déclaration pour garder à cette bonté un caractère de noblesse. Dans d'autres cas, on ne peut pas dire que le véritable but fût sacrifié au but accessoire et imaginé après coup, mais le premier était tellement opposé au second que si la personne qu'Albertine attendrissait en lui déclarant l'un avait appris l'autre, son plaisir se serait aussitôt changé en la peine la plus profonde. La suite du récit fera, beaucoup plus loin, mieux comprendre ce genre de contradiction. Disons, par un exemple emprunté à un ordre de fait ou différent, qu'elles sont très fréquentes dans les situations les plus diverses que présente la vie. Un mari a installé sa maîtresse dans la ville où il est en garnison. Sa femme, restée à Paris, et à demi au courant de la vérité, se désole, écrit à son mari des lettres de jalousie. Or, la maîtresse est obligée de venir passer un jour à Paris. Le mari ne peut résister à ses prières de l'accompagner et obtient une permission de 24 heures. Mais, comme il est bon et souffre de faire de la peine à sa femme, il arrive chez celle-ci et lui dit, en versant quelques larmes sincères, qu'affolé par ses lettres, il a trouvé le moyen de s'échapper pour venir la consoler et l'embrasser. Il a trouvé ainsi le moyen de donner par un seul voyage une preuve d'amour à la fois à sa maîtresse et à sa femme. Mais si cette dernière apprenait pour quelle raison il est venu à Paris, sa joie se changerait sans doute en douleur, à moins que voir l'ingrat ne la rendît malgré tout plus heureuse qu'il ne la fait souffrir par ses mensonges. Parmi les hommes qui m'ont paru pratiquer avec le plus de suite le système des fins multiples se trouve M. de Norpois. Il acceptait quelquefois de s'entremettre entre deux amis brouillés, et cela faisait qu'on l'appelait le plus obligeant des hommes. Mais il ne lui suffisait pas d'avoir l'air de rendre service à celui qui était venu le solliciter. Il présentait à l'autre la démarche qu'il faisait auprès de lui comme entreprise, non à la requête du premier, mais dans l'intérêt du second, ce qu'il persuadait facilement à un interlocuteur suggestionné d'avance par l'idée qu'il avait devant lui le plus serviable des hommes. De cette façon, jouant sur les deux tableaux, faisant ce qu'on appelle en termes de coulisses de la contrepartie, il ne laissait jamais courir aucun risque à son influence, et les services qu'il rendait ne constituaient pas une aliénation, mais une fructification d'une partie de son crédit. D'autre part, chaque service, semblant doublement rendu, augmentait d'autant plus sa réputation d'ami serviable, et encore d'ami serviable avec efficacité, qui ne donne pas des coups d'épée dans l'eau, dont toutes les démarches portent, ce que démontrait la reconnaissance des deux intéressés. Cette duplicité dans l'obligeance était, avec les démentis comme en toute créature humaine, une partie importante du caractère de M. de Norpois. Et souvent au ministère, il se servit de son père, lequel était assez naïf, en lui faisant croire qu'il le servait. Plaisant plus qu'elle ne voulait, et n'ayant pas besoin de claironner ses succès, Albertine garda le silence sur la scène qu'elle avait eue avec moi auprès de son lit et qu'une laide aurait voulu faire connaître à l'univers. D'ailleurs, son attitude dans cette scène, je ne parvenais pas à me l'expliquer. Pour ce qui concerne l'hypothèse d'une vertu absolue, hypothèse à laquelle j'avais d'abord attribué la violence avec laquelle Albertine avait refusé de se laisser embrasser et prendre par moi, et qui n'était du reste nullement indispensable à ma conception de la bonté, de l'honnêteté foncière de mon amie, je ne laissais pas de la remanier à plusieurs reprises. Cette hypothèse était tellement le contraire de celle que j'avais bâtie le premier jour où j'avais vu Albertine. Puis, tant d'actes différents, tous de gentillesse pour moi, une gentillesse caressante, parfois inquiète, alarmée, jalouse de ma prédilection pour André, baignait de tous côtés le geste de rudesse par lequel, pour m'échapper, elle avait tiré sur la sonnette. Pourquoi donc m'avait-elle demandé de venir passer la soirée près de son lit? Pourquoi parlait-elle tout le temps le langage de la tendresse? Sur quoi repose le désir de voir un ami, de craindre qu'il vous préfère votre ami, de chercher à lui faire plaisir, de lui dire romanesquement que les autres ne sauront pas qu'il a passé la soirée auprès de vous, si vous lui refusez un plaisir aussi simple et si ce n'est pas un plaisir pour vous? Je ne pouvais croire tout de même que la vertu d'Albertine alla jusque-là, et j'en arrivais à me demander s'il n'y avait pas eu à sa violence une raison de coquetterie, par exemple une odeur désagréable qu'elle aurait cru avoir sur elle et par laquelle elle eût craint de me déplaire, ou de pusillanimité, si par exemple elle croyait, dans son ignorance des réalités de l'amour, que mon état de faiblesse nerveuse pouvait avoir quelque chose de contagieux par le baiser. Elle fut certainement désolée de n'avoir pu me faire plaisir et me donna un petit crayon d'or, par cette vertueuse perversité des gens qui, attendris par votre gentillesse et ne souscrivant pas à vous accorder ce qu'elle réclame, veulent cependant faire en votre faveur autre chose. Le critique dont l'article flatterait le romancier l'invite à la place à dîner. La duchesse n'emmène pas le snob avec elle au théâtre, mais lui envoie sa loge pour un soir où elle ne l'occupera pas. Tant ceux qui font le moins et pourraient ne rien faire sont poussés par le scrupule à faire quelque chose. Je dis à Albertine qu'en me donnant ce crayon, elle me faisait un grand plaisir, moins grand pourtant que celui que j'aurais eu si, le soir où elle était venue coucher à l'hôtel, elle m'avait permis de l'embrasser. Cela m'aurait rendu si heureux. Qu'est-ce que cela pouvait vous faire? Je suis étonnée que vous me l'ayez refusé.
Ce qui m'étonne, me répondit-elle, c'est que vous trouviez cela étonnant. Je me demande quelle jeune fille vous avez pu connaître pour que ma conduite vous ait surpris.
Je suis désolée de vous avoir fâchée, mais même maintenant, je ne peux pas vous dire que je trouve que j'ai eu tort. Mon avis est que ce sont des choses qui n'ont aucune importance, et je ne comprends pas qu'une jeune fille qui peut si facilement faire plaisir n'y consente pas. Entendons-nous, ajoutai-je pour donner une demi-satisfaction à ses idées morales, en me rappelant comment elle et ses amis avaient flétri l'amie de l'actrice Léa. Je ne veux pas dire qu'une jeune fille puisse tout faire et qu'il n'y ait rien d'immoral. Ainsi, tenez, ces relations dont vous parliez l'autre jour à propos d'une petite qui habite Balbec et qui existerait entre elle et une actrice, je trouve cela ignoble. Tellement ignoble que je pense que ce sont des ennemis de la jeune fille qui auront inventé cela et que ce n'est pas vrai. Cela me semble improbable, impossible. Mais se laisser embrasser, même plus, par un ami, puisque vous dites que je suis votre ami. Vous l'êtes? Mais j'en ai eu d'autres avant vous. J'ai connu des jeunes gens qui, je vous assure, avaient pour moi tout autant d'amitié. Eh bien, il n'y en a pas un qui aurait osé une chose pareille. Ils savaient la paire de calottes qu'ils auraient reçues. D'ailleurs, ils n'y songeaient même pas. On se serrait la main bien franchement, bien amicalement, en bon camarade. Jamais on n'aurait parlé de s'embrasser, et on n'en était pas moins amis pour cela. Allez,
Si vous tenez à mon amitié, vous pouvez être content, car il faut que je vous aime joliment pour vous pardonner. Mais je suis sûre que vous vous fichez bien de moi. Avouez que c'est André qui vous plaît. Au fond, vous avez raison. Elle est beaucoup plus gentille que moi, et elle, elle est ravissante. Ah, les hommes !» Malgré ma déception récente, ces paroles si franches, en me donnant une grande estime pour Albertine, me causaient une impression très douce. Et peut-être cette impression eut-elle plus tard pour moi de grandes et fâcheuses conséquences, car ce fut par elle que commença à se former ce sentiment presque familial, ce noyau moral qui devait toujours subsister au milieu de mon amour pour Albertine. Un tel sentiment peut être la cause des plus grandes peines, car pour souffrir vraiment par une femme, il faut avoir cru complètement en elle. Pour le moment, cet embryon d'estime morale, d'amitié, restait au milieu de mon âme comme une pierre d'attente. Il n'eût rien pu, à lui seul, contre mon bonheur, s'il fût demeuré ainsi sans s'accroître, dans une inertie qu'il devait garder l'année suivante, et à plus forte raison pendant ces dernières semaines de mon premier séjour à Balbec. Il était en moi comme un de ces hôtes qu'il serait malgré tout plus prudent qu'on expulsât, mais qu'on laisse à leur place sans les inquiéter, tant les rendent provisoirement inoffensifs leur faiblesse et leur isolement au milieu d'une âme étrangère. Mes rêves se retrouvaient libres maintenant de se reporter sur tel ou tel des amis d'Albertine, et d'abord sur André, dont les gentillesses m'eussent peut-être moins touchées si je n'avais été certain qu'elle serait connue d'Albertine. Certes, la préférence que depuis longtemps j'avais feinte pour André m'avait fourni, en habitude de causerie, de déclaration de tendresse, comme la matière d'un amour tout prêt pour elle, auquel il n'avait jusqu'ici manqué qu'un sentiment sincère qui s'y ajouta et que maintenant mon cœur redevenu libre aurait pu fournir. Mais pour que j'aimasse vraiment André, elle était trop intellectuelle, trop nerveuse, trop maladive, trop semblable à moi. Si Albertine me semblait maintenant vide, André était rempli de quelque chose que je connaissais trop. J'avais cru le premier jour voir sur la plage une maîtresse de coureur enivrée de l'amour des sports. Et André me disait que si elle s'était mise à en faire, c'était sur l'ordre de son médecin pour soigner sa neurasthénie et ses troubles de nutrition, mais que ses meilleures heures étaient celles où elle traduisait un roman de George Eliot. Ma déception, suite d'une erreur initiale sur ce qu'était André, n'eut en fait aucune importance pour moi. Mais l'erreur était du genre de celles qui, si elles permettent à l'amour de naître et ne sont reconnues pour des erreurs que lorsqu'il n'est plus modifiable, deviennent une cause de souffrance. Ces erreurs, qui peuvent être différentes de celles que je commis pour André, et même inverse, tiennent souvent, dans le cas d'André en particulier, à ce qu'on prend suffisamment l'aspect, les façons de ce qu'on n'est pas mais qu'on voudrait être, pour faire illusion au premier abord. À l'apparence extérieure, l'affectation, l'imitation, le désir d'être admiré, soit des bons, soit des méchants, ajoute les faux-semblants des paroles, des gestes. Il y a des cynismes, des cruautés qui ne résistent pas plus à l'épreuve que certaines bontés, certaines générosités. De même qu'on découvre souvent un avare vaniteux dans un homme connu pour ses charités, sa forfanterie de vice nous fait supposer une messaline dans une honnête fille pleine de préjugés. J'avais cru trouver en André une créature saine et primitive, alors qu'elle n'était qu'un être cherchant la santé, comme étaient peut-être beaucoup de ceux en qui elle avait cru la trouver, et qui n'en avaient pas plus la réalité qu'un gros arthritique à figure rouge et en veste de flanelle blanche n'est forcément un Hercule. Or, il est telle circonstance où il n'est pas indifférent pour le bonheur que la personne qu'on a aimée pour ce qu'elle paraissait avoir de sain ne fut en réalité qu'un de ces malades qui ne reçoivent leur santé que d'autres, comme les planètes empruntent leur lumière, comme certains corps ne font que laisser passer l'électricité. N'importe, André, comme Rosemonde et Gisèle, même plus qu'elle, était tout de même une amie d'Albertine, partageant sa vie, imitant ses façons au point que le premier jour je ne les avais pas distinguées d'abord l'une de l'autre. Entre ces jeunes filles, tiges de roses dont le principal charme était de se détacher sur la mer, régnait la même indivision qu'au temps où je ne les connaissais pas et où l'apparition de n'importe laquelle me causait tant d'émotions en m'annonçant que la petite bande n'était pas loin. Maintenant encore, la vue de l'une me donnait un plaisir ou entrait dans une proportion que je n'aurais pas su dire, celui de voir les autres la suivre de près ou venir la retrouver un peu plus tard, et même si elle ne venait pas ce jour-là, de parler d'elle et de savoir qu'il leur serait dit que j'étais allée sur la plage.